voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Le monde célèbre la journée internationale de la paix ce mercredi 21 septembre sous le thème « Les objectifs de développement durable, composante de la paix ». Le but est de mettre fin à la pauvreté, de protéger la planète et de garantir la prospérité à tous les êtres humains. Alors, par rapport à cette journée de la paix, quel est le rôle de la femme dans ce processus de paix? Que doit faire la femme? Alors, aujourd'hui, nous recevons le professeur Nicole Ntumba Boitia, professeur à l'Université de Kinshasa. Il a également beaucoup écrit sur la femme. Par exemple, là, nous avons un titre, « Les femmes au cœur du terrorisme moderne, autopsie d'une tendance émergente. La difficile juridicisation du droit à la santé, de la reproduction en tant que droit international des droits de l'homme dans l'environnement socio-culturel congolais. Nous avons également la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ces jours et l'état de la question de la parité homme-femme dans un contexte d'anthropologie juridique. Professeur Nicole Ntumba, encore une fois bonjour.
Bonjour à vous.
Alors nous parlons de la paix aujourd'hui. D'abord, c'est quoi la paix?
La paix, sans être trop scientifique, je vais donner peut-être une définition plus proche de la réalité, de ce qu'on vit tous les jours. Mm-hmm. C'est cet état de quiétude, de sérénité, de calme, de bien-être qui doit animer tout individu, mm-hmm, homme ou femme, qui est pris de cet état justement pour qu'il puisse avoir de bonnes relations, on va dire de voisinage ou de d'entourage avec les autres, mmh, pour cultiver sans cesse cet esprit d'amour et afin d'éloigner l'animosité, les petits conflits qui parfois mènent à rien du tout. Mmh. Et je crois que aussi loin que remontent tous ces processus de paix, je crois que il faut toujours se mettre ensemble pour pouvoir discuter et avoir des germes de cette paix là, mmh, que ça soit chez les Iroquois où on a le calumet de la paix, oui, que ça soit chez nous, plus près de chez nous, l'arbre à palabre où on s'assoit pour la paix, mmh, pour discuter. Donc moi, c'est cet état constant de sérénité pour pouvoir solutionner les problèmes.
Et quelle est l'importance de la paix?
C'est-à-dire que il faut absolument qu'on crée toutes les conditions de paix pour pouvoir avancer, se développer, pour pouvoir aller de l'avant, avoir mmh, un développement durable, pour pouvoir résoudre des problèmes dans le calme, sans précipitation, sans stress. Je crois que le manque de paix contribue à des facteurs de stress qui empêchent de voir ce qui est important. Mmh. Et donc voilà, donc il faut vraiment créer toutes ces conditions pour pouvoir être dans cet état de quiétude.
Donc on ne peut pas parler de développement tant qu'il n'y aura pas la paix.
Impossible. Impossible. Ça va ensemble. C'est vraiment, ça s'embrique. Mm. Donc là, il y a pas de paix. Vous pouvez pas construire un développement. Regardez les affres de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Plus près de nous ici, les affres de toutes les guerres que nous avons connues dans notre République, notre chère République démocratique du Congo. Mm. À quel moment on a pu se développer depuis la guerre de 98 à ce jour? Est-ce qu'on a le sentiment? Pendant plus de 20 ans, est-ce qu'on a le sentiment d'être réellement développé? Je crois que les conditions de développement sont intimement liées ou corollaires même de cet état de quiétude dont je parle.
Alors, quel est le rôle de la femme dans ce processus de paix?
Bon, ça, ce que je vais dire, c'est une réflexion que j'ai faite toute seule. Ça peut être peut-être pas accepté, mais moi, je pars d'un constat que je fais. Mmh. Je crois que la femme est importante, d'abord femme en tant qu'être humain, ok, mmh, est importante dans ce processus-là, parce que je crois qu'au départ, étant quelqu'un qui porte la vie, quand on porte la vie, nous qui avons la chance de avoir porté la vie, mmh, on nous recommande d'être dans un état, le fameux état de quiétude, d'être en paix, de pas être stressé, de ne pas être énervé, pour pouvoir enfanter dans le calme. Maintenant, quand je transpose cet état-là, je crois que nous sommes naturellement prédisposés à comprendre les situations dans lesquelles, les situations de conflit, et aussi savoir. Bonjour. par cet état naturel qu'on a, cette propension naturelle qu'on a à être en paix, de comprendre mieux les mécanismes de paix qui peuvent se placer. Donc je fais un petit parallélisme pour comprendre que, pour dire que nous sommes naturellement disposés à engendrer des germes de paix, nous les femmes. Donc c'est important qu'on puisse aussi nous considérer dans ces processus de paix, dans tous les processus de paix qu'il faut.
Alors comment considérer la femme, comment impliquer la femme?
Mais simplement d'abord elle-même par ses attitudes, son comportement, en tout cas son désir de se faire de pas remarquer, c'est pas ça le mot que je vais utiliser, de montrer sa valeur, de montrer qu'elle est capable elle aussi de participer à ces grands rendez-vous de résolution de paix. Bon, mais c'est dommage malheureusement sur terrain de constater que les femmes sont toujours minorisées. Je peux comprendre que dans des processus de résolution de paix, on met en face les belligérants, donc les personnes qui sont en querelle. C'est vrai.
Le processus de résolution des conflits.
Voilà, exactement. On a toujours tendance à mettre les personnes. Mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas des tierces qui peuvent aussi amener une solution? Et pourquoi pas les femmes? Les femmes de valeur, il y en a beaucoup, qui peuvent expliquer avec leur sensibilité féminine par rapport à ce qui se passe. Mais il y en a, je veux pas dire qu'il y en a pas, mais c'est toujours amoindri. Le pourcentage est toujours faible. Et depuis Saint-City, par exemple, chez nous, le pourcentage était faible. Là, maintenant, ce qui se passe, le dialogue, c'est toujours
il n'y a pas
de femmes. La représentativité est quasi nulle. Comment peut-on expliquer aujourd'hui, alors qu'on est en train de chercher des processus de paix, les femmes sont obligées de quémander leur présence dans des assises? Ce n'est pas normal. Au 21e siècle, ça devrait être fait naturellement. On peut pas regarder à la télé un groupe de femmes qui vont à la porte de la facilitation pour demander qu'on puisse nous recevoir. Non, ce n'est
ça
pas...
Ça devait être automatique.
Automatique. Ça devrait être automatique. Nous devons être, pas en tant que composante, mais en tant qu'être humain d'abord, avant d'être femme. Être humain qui peuvent aussi apporter une solution.
Voilà. Bien, nous parlons du rôle de la femme dans le processus de paix. Nous avons déjà deux auditeurs en ligne. Yannick nous appelle des Kamina, Marcel est à Kananga. Vous voulez également participer à cette émission? Appelez-nous au 081 890 63 94. Yannick des Kamina, bonjour.
Bonjour Daniel, bonjour à madame le professeur.
Quel est votre rôle?
Je trouve que la femme a un rôle important dans le processus de maintenance de paix. Mais ici au Congo, ce n'est pas le cas. Si nous essayons de voir combien de femmes occupent le poste de ministre, combien de femmes sont dans l'armée, combien sont des députés, la finalité montre que c'est déjà un problème, car dans la prise des grandes décisions pour le pays, nous constatons l'absence, pas seulement totale, mais une faible participation des femmes qui constitue déjà un socle pour les chaos dans l'avenir du pays. Si nous continuons à considérer que la femme, la place, c'est toujours justement dans la cuisine, nous faisons une erreur, car nous, les hommes, nous sommes animés par l'égocentrisme.
Oui. Et quelle est la question? Yannick, quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Non, je voulais seulement dire que nous devons associer la femme.
D'accord, c'est une contribution. Merci. Marcel de Kananga, bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour à l'invité aussi.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, c'est Marcel Boto à Kananga. Je voulais un peu demander à l'invité, les femmes sont instrumentalisées par rapport à la corruption. Vous voyez une femme qui est représentante d'une association ou d'un regroupement, du fait que le pouvoir prend une somme importante à sa session pour la gestion, elle laisse sa mission, les gardiennes qui étaient de continuer mieux, elle commence maintenant à se dépénaliser par rapport à l'argent. Et par rapport à ça, les femmes sont toujours méprisées par rapport à leurs responsabilités.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que les femmes sont corruptibles?
Oui, elles sont très faibles. C'est-à-dire quand ils voient seulement une capital d'argent, elles oublient tout. Alors, c'est pourquoi voilà nos dialogues, elles acceptent tout, même à l'Assemblée nationale, elles acceptent tout. C'est ça. Donc, il y a un problème. Il faut que les femmes puissent prendre les responsabilités parce que nous les considérons beaucoup, surtout à Kananga ici, c'est un laisser aller par rapport aux femmes.
D'accord, merci, professeur Nicole.
par rapport à notre ami de Kamina, c'est ça? Oui. Par rapport à notre ami de Kamina.
Yannick,
il a tout à fait raison, parce que je crois que ce qui fait que les femmes sont faiblement représentées aussi dans ces assises, enfin dans tout ce qui est dans la scène publique, c'est ce que j'appelle moi, en tout cas dans mes observations in situ, c'est les résistances socioculturelles. Les résistances socioculturelles qui font que on est d'emblée, nous les femmes, en proie à des préjugés. Donc une femme qui s'affiche publiquement, ou bien qui prend une prise de parole, qui montre
qui prend les devants,
elle est facilement taxée. Voilà, elle veut se comporter comme un homme. Ah tiens, c'est un vrai homme, cette femme là des choses comme ça, des préjugés dans ce genre là qu'on entend.
Oui.
Donc c'est pas toujours facile. Donc ces résistances socioculturelles font que d'emblée, la femme, comme notre amie de Kananga a dit, d'emblée, dans la cosmogonie, on va dire, des Africains ou des Congolais, la femme doit d'abord être celle qui est à la maison, celle qui s'occupe des ménages, ce qui est bien. Moi, on peut facilement faire tout ça.
Oui.
Mais à un moment donné, parce qu'on connaît ses valeurs, parce qu'on sait de quoi on est capable, on peut être en mesure de montrer que nous sommes importantes, que les femmes sont importantes dans toute forme de prise de décision. Quant à la corruption, malheureusement, ça ne frappe pas que les femmes. Je veux dire, en tant qu'être humain, il y a des femmes corruptibles. Je ne dis pas qu'elles sont exemptées, elles sont parfaites. Non, bien sûr que non. C'est vrai que dans une ONG, quand on met par exemple une responsable de femme, et encore là, il y a aussi des problèmes, parce que les structures même de nos ONG ou nos associations sont victimes aussi de l'état de déliquescence que se trouve, dans lequel se trouve notre société par rapport à
cette chose.
C'est un état général. Donc
oui.
Voilà.
Donc la corruption ne concerne pas seulement
pas
les femmes.
Pas que les femmes. Et ça, je vous le garantis.
D'accord. Olivier, vous êtes à Kisangani. Kapala, vous nous appelez des Mouba. Olivier, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Marie. Bonjour à la dame forfait.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question, Olivier?
Avant de poser mes deux petites questions dans la paix du jeu, je fais un constat selon lequel le gouvernement congolais ne s'implique pas activement pour privilégier la femme dans tous les secteurs de développement du pays. Par exemple, il y a le secteur économique, le secteur politique, etc. Ceci dit, il est maintenant impossible que la femme participe de manière active pour le développement du pays, d'une part, mais aussi la femme qui se sous-estime elle-même, qui est animée par un esprit de complexe d'infériorité. Si nous référons maintenant aux pays comme le Rwanda, plutôt que c'est la femme qui a un nombre élevé dans les institutions phares du pays comme le Parlement. Et maintenant, le Rwanda est un pays qui est envié par les étrangers, car il y a quand même le développement qui se manifeste au jour le jour. Au regard de ce qui précède, j'ai deux petites questions à poser à notre invité. La première, que l'invité nous montre la politique que doit prendre le gouvernement pour que la femme participe de manière active pour le développement du pays. La deuxième, qu'est-ce que la femme elle-même doit faire pour arriver à vaincre la peur ou à vaincre ce complexe-là qui l'anime de sécurité? Merci.
Bien. Kapala, Mouba, vous êtes à Mouba. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, monsieur Jody Kachama. Bonjour aussi à l'invité. Oui, d'emblée, je dirais que madame le professeur a dit que la paix a défini comme la paix comme ayant la sérénité, l'absence de troubles ainsi que la tranquillité. En fait, si nous regardons très bien nos femmes, surtout nos femmes congolaises, dans la plupart de nos femmes congolaises manquent la bienséance, la sérénité ainsi que cette complaisance. Qu'est-ce que, mais toujours la question en est que, qu'est-ce que la madame apportera comme apport aux femmes qui sont ici, comme chez nous à Moba, à l'intérieur, nos femmes d'ici ne savent rien. Comment est-ce qu'elles vont apporter comme apport jusqu'à tel point à donner, disons, pour instruire convenablement nos femmes d'ici, à ce qu'elles puissent aussi donner contribuer dans le processus de la paix. Voici ma question.
Merci. Merci, professeur Nicole.
Bon, déjà, pour le parler à la dernière personne qui va poser la question. Mm-hmm. Déjà, si on est dans une situation où les hommes, parce que ce n'est pas une querelle homme-femme, je n'aime pas entrer dans ce genre de débat, mais je dis simplement, si, par des attitudes extérieures, nos hommes montre que la femme ne peut pas aller au-delà de sa propre valorisation, comment voulez-vous qu'elle ait de l'estime pour elle-même? On vous dit que non, une fille, à un moment donné, doit penser à se marier absolument, doit penser à avoir des enfants, ce qui est tout à fait noble, mais arriver à le convaincre, par exemple, que ça sert à rien de pousser les études plus loin, parce que tu n'auras pas de mari, tu n'auras pas ça, et puis de toute façon, les femmes trop intellectuelles, trop intelligentes, ne se marient pas, voilà. Donc, toutes ces formes de préjugés ou de pression
qui
sociale
ancrées en soi, ne
fait manquer de confiance en la femme. Elle se dit, mais finalement, ça sert à quoi? Ne sont pas beaucoup. Il faut vraiment exhorter, il faut vraiment aider nos sœurs, enfin, nous-mêmes, les femmes, à se dépasser. Toujours dans le respect, évidemment, de son conjoint ou de l'entourage masculin, dans un respect, dans une conversation, dans un dialogue mutuel permanent pour essayer de comprendre que je peux. Moi, quand je suis arrivée au campus de Kinshasa, si je vous dis que je suis la seule femme dans mon département, même à ce niveau-là...
La seule femme
du département d'orientation publique, même à ce niveau-là, ça a été difficile pour mes collègues hommes professeurs de m'appeler Madame le professeur. Pour vous dire, c'était toujours... Messieurs les professeurs, conseil de département de droit, bonjour messieurs les professeurs, j'ai levé la main pour dire motion s'il vous plaît, et je bombe un peu le torse pour dire jusqu'à preuve du contraire, j'ai encore les attributs de femme, et il faut me regarder quoi. Et moi je pensais que ça aurait été naturel, et vous savez ce qu'ils me répondent, ils me disent, oui mais c'est lourd d'écrire madame, virgule, messieurs, je dis quand même pas à ce point.
Et ça a pris du temps.
Et ça a pris du temps, mais maintenant ça va. C'est comme pour les étudiants en mémoire ou quand ils présentent leur thèse, enfin leur mémoire à la défense, c'est toujours monsieur le professeur. Je comprends qu'ils sont pas habitués, mais ça ne passe pas encore dans leur tête de voir une femme à ce niveau-là et avec montrer sa valeur. Voilà, on a toujours tendance à tirer vers le bas. Mmh. Et les femmes les plus timides ont du mal à exprimer. Dans l'auditoire, par exemple, les filles ne posent pas rarement des questions. C'est pas parce qu'elles ne peuvent pas, elles préfèrent me suivre au bureau, mais parce que le regard des hommes sur elles est trop lourd. Et ça, c'est les fameuses résistances dont je vous parlais.
Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a posé la question, Kapala, il dit, comment la femme peut contribuer à la paix du fait que, par exemple, les femmes qui sont à Moba, qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas étudié, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour contribuer à la paix?
Mais déjà, pour qu'elle contribue à la paix, il faut qu'on revalorise, qu'on favorise la sociabilisation de ces femmes-là. C'est-à-dire, quand je dis sociabilisation, c'est que ces femmes puissent être conscientes, avec l'aide de nos partenaires hommes, conscientes qu'elles ont du potentiel, qu'elles peuvent réellement servir dans la société. Et non pas, quand je dis servir dans la société, c'est tout en respectant ce qu'elles font, les champs, etc., mais qu'elles peuvent aller au-delà. Mais pour ça, je dis bien que c'est dans une ambiance, dans un environnement d'éternel dialogue. Quand je dis dialogue, c'est-à-dire une interaction entre individus pour pouvoir leur faire prendre conscience. Comment vous voulez dire à une maman qui fait son chant, qui dit non, voilà, il faut aller vite voter ou bien il faut aller vite participer à un meeting. Elle va te dire non, j'ai d'abord mes chants à faire, ce qui est vrai, ce qui est important.
Bien sûr.
Mais comment lui réveiller ça? Il faut que les hommes puissent aussi dire non, maman, on peut manger à une certaine heure, viens, on va assister et puis on revient. Moi-même, je vais t'aider. Voilà, pourquoi pas.
Voilà.
Mais vous imaginez un homme à Moba dire à sa femme, non, maman, attends, c'est moi qui vais tourner le foufou avec toi. Vous imaginez?
Ça, c'est un problème. On va accueillir Christian qui nous appelle de Kinshasa et Rocky des bandes de ville. Christian, bonjour.
Allô, bonjour.
Christian, vous êtes à Kinshasa. Et quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour, merci beaucoup, joli Daniel, merci à l'invité aussi. Je vous ai très bien suivi, mais j'aimerais beaucoup plus intervenir par rapport au thème du jour, les objectifs de développement durable composante de la paix. Et je partirai d'une vue un peu plus syncrétique de la question, et je dirais que nous sommes partis sur de très mauvaises bases dès le départ, avec la révolution industrielle, la mondialisation, etc., ce qui a favorisé la montée du capitalisme. Nous nous sommes retrouvés dans un système de développement où la quasi-totalité des ressources de la planète était détenue par moins d'1% de la population du monde. Et comment voulez-vous que certains pour diriger dominent, divisent, certains pour dominer, c'est-à-dire dominent sur les autres et tout ça, et le gens ne s'y retrouve pas. Il y en a ceux-là qui prennent en otage les richesses au détriment des autres. Et comment est-ce que dans ces climats-là, les uns et les autres peuvent se mettre ensemble pour travailler dans la construction d'une paix réellement durable? Et parlant de la femme, il y a toujours des propos, l'invité vient de le dire, il y a le propos sexiste, en tout cas c'est un mot que je n'entends pas encore ici, mais les autres l'ont déjà compris, il y a toujours cette connotation-là de réduire la femme au second plan, de la voir comme une bonne à rien, avec la colonne des attributs totalement ménagères, alors qu'elles ont du potentiel, elles peuvent aussi, en tout cas nécessairement, on ne peut dire qu'elles sont là comme humaines aussi, participant à la vie active des sociétés. On ne peut les mettre à côté dans la construction de cette peu réellement durable. Alors, la question que j'aimerais poser à la dame, bien que je sois vraiment partisan de cette intégration de la femme dans la construction d'une paix durable, oui. Et j'aimerais savoir comment maintenant la femme, parce que nous ne devons pas oublier que c'est vrai que nous devons propulser la femme de l'avant et tout ça, il y a aussi le ménage, madame. Donc, même le code de la famille le reconnaît, quelque part l'homme a toujours un ascendant sur la femme. C'est parti de la Bible, de l'école de la famille dans notre pays, en tout cas avant qu'il ne soit révisé, puisque tout devient révisable dans notre pays. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est ça. Alors, comment la femme peut concilier ses attributs ménagères, le fait qu'elle doit s'occuper de son foyer et cette participation active dans la société? Quelque part, vous ne voyez pas que si il faut qu'elle se donne à temps plein, comme l'homme se donne à temps plein dans cette vie active de la société, cela pourrait peut-être poser un petit problème dans la stabilité de son foyer. Merci beaucoup à notre professeur.
Bien. Rocky, vous êtes à Bandounouville. Bonjour, quelle est votre question?
Et bonjour, je dis bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, j'espère bien que l'invité est en train de parler pour toutes les femmes du monde. Bon, je vais lui poser une seule question. La femme qui a envoyé les facilitateurs dans notre pays, Madame Zuma, est-ce qu'elle aussi participe au processus de la paix dans notre pays, voyant la situation que nous traversons dans notre pays? J'ai même suivi sa déclaration hier. Je vais demander à l'invité qu'elle me dise au moins est-ce que cette femme est en train de participer au processus de la paix dans notre pays ou pas. La deuxième question, bon, dans tous les cas de trahison, soit des empoisonnements, pourquoi on utilise le plus souvent les femmes? Est-ce que ces femmes-là qui sont utilisées dans ce sens-là peuvent aussi participer au processus de la paix dans un pays? Ce sont là mes questions. Je vous remercie.
Bien, merci Rocky de Bandounouville. Bien, professeur Nicole, vous avez plusieurs questions.
C'est ça, donc si auditeurs. On peut à chaque fois me le rappeler, voilà. Parce que j'en ai beaucoup.
Christian de Kinshasa, il dit s'il n'y a pas de paix, c'est parce qu'il y a une mauvaise répartition des richesses. Il a parlé des propos parfois sexistes qu'on tient à l'égard de la femme. On a tendance à réduire la femme au deuxième rang. Et puis il dit comment la femme peut arriver à concilier le ménage et la participation active dans la société.
D'accord. Pour le premier intervenant, je crois qu'il n'a pas tort de dire que c'était mal parti, que le capitalisme avait pris, était considéré comme la meilleure doctrine pour au point de vue économique en tout cas. Mais il faut pas que notre auditeur oublie que de l'autre côté il y avait aussi les communistes, il y avait aussi le socialisme qui voulait faire une répartition égale des richesses dans les pays qui appliquaient en tout cas cette doctrine là. Ça a commencé en Russie, en l'ancienne URSS, et c'est descendu dans les pays africains un peu partout dans le monde. Donc le monde a été partagé en deux blocs.
Oui.
Mais Avec le vent de la perestroïka, vous avez vu que ce n'était pas vraiment la solution qu'il fallait, parce que ces régimes-là sont tombés pour justement revenir, se rapprocher encore plus de ce capitalisme-là. Donc je ne dis pas que le capitalisme est le meilleur, mais le socialisme n'était pas non plus n'a pas prouvé aussi ses vertus à un certain moment, parce qu'il faut pas oublier que nous sommes dans un contexte de leadership dans le monde. Donc je crois que il faudrait peut-être pas trop entrer dans ces considérations-là, parce que chaque doctrine a ses avantages et ses inconvénients. Bon.
Mais pour avoir un développement durable, pour avoir la paix, il faut une répartition équitable.
Absolument, il faut une répartition équitable de richesses. Mais il ne faut pas être naïf. Nous sommes dans une société internationale qui est différente d'une communauté internationale. Parce que la communauté internationale, si je préfère le dire tout de suite, c'est simplement cette fiction, cette entité angélique. C'est-à-dire, quand j'étais angélique, c'est-à-dire cette communauté où tout le monde est beau, gentil, joli, on s'aide les uns les autres, on s'aime, on a cours quand l'autre est en difficulté. Mais ça, c'est une fiction. Ça, c'est une entité angélisme, se faire de l'angélisme. C'est ça, la communauté internationale. Mais la société internationale, c'est là où les intérêts priment. Vous ne pouvez pas conclure un accord sans qu'il y ait un intérêt. Et je crois que c'est là que se pose le problème. Donc, comme nous sommes dans la société, la répartition des richesses ne peut pas être égale. C'est pas possible. Pour avoir une répartition égale et pour avoir droit au chapitre d'être respecté, il faut d'abord que les gouvernements internes de chaque pays qui aspire à être, à qu'on parle d'eux sur la scène nationale, et aussi une bonne gouvernance ou un bon leadership pour pouvoir parler au nom. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on peut être considéré et avoir part au gâteau, quoi, je veux dire.
D'accord, à part droit au chapitre.
Au chapitre, exactement.
Alors, comment concilier le ménage et la participation à la vie?
Je suis très à l'aise pour répondre à cette question. Active. Parce que, voilà, je crois que tout est dans les rapports qu'on a avec son conjoint. Je crois qu'il n'y a pas de secret. Les hommes ou certains couples ont tendance à croire que si la femme veut émerger, travailler simplement, c'est peut-être pour absolument avoir de l'argent ou c'est... Non. C'est aussi pour ce que j'ai appelé tout à l'heure, c'est bien suivi, la sociabilisation. La sociabilisation, c'est quoi? C'est simplement être capable de se sentir utile. Et dans son foyer et à l'extérieur, parce que je peux travailler et avoir moins que mon mari. Ça c'est pas ça. C'est simplement que j'ai besoin de ce travail pour. Je donne un bête exemple. Bon, j'ai fait mon PhD, j'ai fait truc, mais ça m'a pas empêché d'être maman à la maison, même si ça m'a pris.
D'être
femme au foyer. Voilà. Tout est dans le dialogue et avoir aussi le conjoint qui peut comprendre que ma femme a besoin de s'épanouir comme ça. Et ça c'est dans l'amour et dans le dialogue. Mais si au départ vous êtes dans un couple où vous êtes deux fortes têtes, Moutabang et Samuninga Zate.
Ah, c'est fini, c'est parti
pour, on divorce, etc. Voilà. Je crois que c'est dans le dialogue et dans l'amour mutuel. Franchement, il n'y a pas d'autre explication.
Il n'y a pas d'autre explication. Voilà. Roque dit à Madame Zuma, qui a envoyé les facilitateurs, a-t-elle contribué à la paix? Et puis, il parle des cas d'empoisonnement où on utilise beaucoup plus les femmes.
Madame Zuma était dans son rôle. Il ne faudrait pas confondre les choses. Quand la République démocratique du Congo, à travers certains acteurs, a sollicité une médiation africaine ou même internationale, c'était fait à une organisation internationale, l'ONU ou l'Union africaine.
Oui.
Donc, Madame Zuma, il ne faut pas la prendre en tant que femme, il faut la prendre en tant qu'organe, en tant que institution, président d'une organisation internationale qui devait répondre à un appel. Donc là, la réduire à un niveau simplement de femme, ça c'est mal poser la question. Parce que ça aurait été un homme, il aurait fait la même chose. Et je vous ai expliqué que nous sommes dans une société internationale où on regarde les problèmes, les intérêts géopolitiques ou géostratégiques qui se tournent autour de soi. Donc réduire que Madame Zuma est-ce qu'elle a contribué à... Non, c'est réduire. Ce n'est pas à mon avis évidemment. Je respecte l'opinion de mon ami, mais je dis simplement que c'est n'importe quel être humain aurait été dans son rôle et l'aurait réfléchi pareil.
D'accord.
Voilà. Et l'autre question.
Bon. secondes et que les femmes sont utilisées dans les
empoisonnements. Oui, évidemment. On a toutes sortes de femmes. Il y a des femmes qui où l'argent prime. Si on a promis à cette femme que voilà, si tu m'empoisonnes celui-là, tu seras millionnaire. Bon, tout dépend de quelle est ta moralité. Hein, quelle est ta moralité?
Ça, ça dépend
comment,
de la moralité d'une personne.
Comment
à une autre,
tu as grandi? Comment les éducations que tu as eues? Voilà, je sais que les conditions de misère sont tellement criantes qu'on est tous en proie à céder facilement à une petite corruption ou à un petit cadeau ou à un pot de vin. Mais tout dépend maintenant de la personnalité de chacun.
Voilà. Chomba nous appelle de Kindu et Paul de Lumbashi. Chomba, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Chomba Ngoi depuis la ville de Kindu.
Chomba, nous parlons du rôle de la femme dans le processus de paix. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, moi je voudrais un peu aborder dans le même sens que l'un de mes prédécesseurs a parlé là.
Oui.
Moi je pense que on ne peut pas tout donner à la femme. On traite une femme c'est par rapport d'abord à ses capacités. Comment, comme l'un de mes prédécesseurs a dit là-bas, non, il y a combien de femmes dans des postes ministériels. Est-ce qu'on peut nommer une femme dans des postes ministériels qui n'est pas même à mesure de tenir un point de presse? Non. Alors, c'est la problématique seulement des capacités, des compétences. Vous voyez? Comme l'invité a parlé là,
oui.
Il faut une rééducation aussi des femmes, des filles. Ce n'est pas parce qu'une femme est être humain ou parce qu'elle bénéficie de la parité qu'on peut tout donner à la femme. Non, il faut qu'elle soit capable, qu'elle montre ses capacités par rapport aux hommes.
D'accord, merci pour cette contribution. Paul, vous êtes à Lumbashi. Bonjour, et quelle est votre préoccupation?
Bonjour, Jody.
On parle du rôle de la femme dans le processus de paix. Quelle est votre question?
Oui, je pense que je suis vraiment de même avis que notre invité. Je pense que la femme peut énormément contribuer à la paix. Parce que nous avons des exemples. Quand vous prenez le Libéria, qui est dirigé par une femme, aujourd'hui on voit que c'est un peu plus ou moins calme qu'ici chez nous. Et nous avons vu aussi d'autres familles ici qui croupissaient dans la pauvreté. Mais quand la femme a pris la chose à la main, vous allez voir que ces familles ont un peu trouvé des stabilités. La seule chose que moi je trouve un peu, que la femme ne fait pas bon, c'est la femme intellectuelle comme madame qui est sur le plateau. C'est-à-dire que la femme n'est pas tellement sensibilisée. Moi je trouve autant qu'on fait sur la lutte contre pour la planification familiale, je pense qu'on devrait faire, autant on devrait aussi faire pour sensibiliser la femme pour qu'elle se prenne en charge, pour qu'elle soit capable de lutter contre la pauvreté, parce que l'ennemi de la paix d'abord c'est la pauvreté. Si la femme est vraiment sensibilisée, elle peut contribuer énormément à la paix dans la société, dans la famille et même dans le pays. Et aussi, j'ai vu que les quelques femmes-là qu'on nomme au gouvernement, elles ne font pas assez pour sensibiliser la femme. Le seul sujet dont on parle à la femme aujourd'hui, c'est toujours la planification familiale. La planification familiale, ce n'est pas mauvais. On peut aussi ajouter sur la lutte contre la pauvreté, investir de la même manière qu'on investit dans la planification familiale. Sensibiliser les femmes dans l'association féminine, quand ils vont à la constitution prénatale, tout ça, je pense que ça peut aider la femme. Et quand la femme se réveille, je pense que dans le pays aussi, on peut avoir un peu de paix. Vous allez trouver la plupart des gens qui vendent dans le marché, ce sont les femmes. Et chaque jour, vous allez voir les policiers, c'est des bandades tous les jours. Je crois qu'on peut faire autant. Je demande à madame si son initiative là-bas ne reste pas dans son armoire, qu'elle puisse vraiment porter ça à la population, voir comment est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser la femme. Je pense que c'est ça ma préoccupation.
Merci. Professeur Nicole.
Oui, d'accord. Votre préoccupation, je la partage aussi pour le dernier intervenant. Mais comment voulez-vous que cette pauvre femme puisse montrer de quoi elle est capable quand on la nomme d'une manière arbitraire à des postes qui sont des postes où elle ne peut pas exposer son talent. Bon, déjà il y a quatre départements régaliens. On a la défense, l'intérieur, la justice et les affaires étrangères. À part Ekila Lionda qu'on a eu à l'époque de Mobutu, qui est déjà morte paix à son âme, il y a jamais eu de femme ministre aux Affaires étrangères, il y a jamais eu de femme à la Défense ni à l'Intérieur. Il faut aller voir la dame de la France, là, comment Alliot-Marie, Michel Alliot-Marie, ancien patron du RPR de Jacques Chirac à l'époque, et qui a été ministre de ces quatre départements régaliens de souveraineté, pour comprendre qu'il y a possibilité. Mais ici, à cause, il faut vraiment qu'on comprenne,
à cause de ces préjugés,
de ces résistances socio-culturelles qui empêchent cette femme d'exercer. On a une femme dans le gouvernement qui est à l'Intérieur, si je m'abuse. C'est une femme, mais elle est quoi? Elle est vice-ministre. Elle est vice-ministre avec l'omnipotent ministre de l'Intérieur qui est là, qui est aussi professeur, collègue. Donc, qui fait qu'elle peut pas toujours exprimer comme elle veut. Qu'est-ce qu'on fait? On la réduit à s'occuper des uniformes de la pension des femmes militaires, enfin, des femmes policiers. Donc, toujours tendance à les mettre, alors comment voulez-vous, si déjà dans ce milieu macho, on empêche cette femme à accéder, à émerger.
Alors, c'est difficile. Professeur Nicole Toumba, alors par rapport au contexte actuel, vous avez vu depuis le lundi, plus rien, les choses tournent au ralenti, il y a des échauffourées entre la police et la population. Alors dans ce contexte ici, qu'est-ce que la femme peut faire pour consolider la paix?
Mais elle peut simplement démontrer que d'abord, si vous, les hommes, parce que j'ai du mal à parler comme ça, je n'aime pas faire la scission, montrer que c'est les hommes et les femmes, êtres humains, c'est vraiment des êtres humains. Si on est considéré déjà comme être humain à part entière, on peut s'essayer à entendre autre chose, parce que les conflits, c'est toujours créé pratiquement par les hommes, par les personnes qui ne veulent pas s'entendre. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, on a cette propension, nous les femmes, à avoir ces attitudes, ces germes de paix. Donc pourquoi ne pas s'essayer? Pourquoi ne pas essayer à mettre la femme au devant de la scène pour trouver des solutions de paix, c'est-à-dire parler. Et c'est de comprendre ce qui se passe et en tirer des conséquences. Et peut-être donner aussi des éléments qui puissent permettre à ne plus retomber dans ces mêmes travers-là. Donc, au départ, je crois que c'est simplement la confiance qu'on peut mettre en ces femmes en dépassant ces préjugés où on dit que la femme ne peut rien construire. La femme, non, pas du tout. Et les femmes, nous-mêmes, nous devons être capables, pas de vendre, mais de démontrer que nous pouvons être aussi considérés comme nos paritaires hommes, quoi.
La prise de conscience est un élément déclencheur,
important, déclencheur, oui, qui peut, voilà, qui peuvent être facteurs de changement et pour s'asseoir autour de la table. Donc, je crois que l'heure n'est pas à choisir que non, c'est une femme, on ne faut pas la prendre. Elle est être humain, qu'elle vienne à la table, qu'on puisse discuter et arrêter ces préjugés-là, parce que au 21e siècle, ça n'a aucun sens.
Bien. Professeur Nicole Toumba Boitien, professeur à l'Université de Kinshasa, à la Faculté de droit. Merci et bonjour.
Merci à vous. Merci beaucoup.